ensemble. Matthieu 9, versets 18 à 34. Page 964. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha de derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jusque-là, la lecture de la parole. Merci de garder cela ouvert devant les yeux, si vous pouvez. Qu'est-ce qui distingue Jésus d'autres personnages religieux? Qu'est-ce qui le distingue? Après tout, dans notre monde multiculturel, nous avons vraiment le choix. Tout comme au supermarché, si on veut manger des céréales, on a 10 000 choix devant nous. Dans le monde religieux, nous avons également énormément de choix. Nous pouvons croire en Allah et en son prophète Mohammed. Nous pourrions croire au Bouddha et ses principes de vie. Nous pourrions croire ce que disent les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Nous pourrions croire au dieu hindou ou au Dalai Lama. Bien, nous pourrions croire en l'être humain, tout simplement. Nous pourrions croire en beaucoup, beaucoup de choses. Et nous voyons qu'il est plus fort que la mort. Jésus-Christ est plus fort que la mort. Il a l'autorité sur la mort. La mort projette son ombre sur toute l'existence humaine, n'est-ce pas? C'est terrible. On arrive parfois à ne pas y penser pendant un temps. Et puis tout d'un coup, notre mortalité se rappelle à nous. Un jour, notre vie sera terminée. Notre cœur cessera de battre. Nous ne pourrons plus parler aux autres, rire avec eux, pleurer avec eux, tout simplement vivre avec eux. Nous serons morts. Et l'être humain n'a aucune réponse face à la mort. Jésus se trouve face à la réalité de la mort. Un chef arrive, se prosterne devant Jésus et lui dit, « Ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains, elle vivra. » Maintenant, nous allons voir si Jésus est juste un simple faiseur de miracles, quelqu'un qui est capable de guérir les gens avec des petits problèmes de santé. Mais le chef croit que Jésus pourra faire revivre sa fille. Mais que peuvent faire les hommes face à la mort? Rien. Mais au verset 19, nous voyons que Jésus part avec le chef. Il est interrompu en chemin par une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il prend le temps de la guérir, comme nous le verrons tantôt. Mais lorsqu'il arrive à la maison du chef au verset 23, les gens sont en train de pleurer la mort de la fille. Il voit des joueurs de flûte, des pleureuses et une foule bruyante. La tradition de l'époque consistait à payer des gens de venir pour créer l'ambiance de deuil lors du décès de quelqu'un. Et donc il y a plein de bruit, de la musique, des chansons tristes. Les gens qui ont tous des larmes aux yeux. Mais Jésus dit quelque chose de très osé au verset 24. La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. C'est quand même un peu osé de Jésus de dire, « Attends un peu Jésus, de quoi tu parles ? La fille est morte, elle n'a plus de pouls. Il n'y a pas moyen de la ranimer, elle est morte. » Et il se moque de Jésus. Mais que veut-il dire ? Il dit, « Elle n'est pas morte, elle dort. » Elle ne dort vraiment pas du tout. Sinon, on sentirait son pouls. On n'aurait pas fait appel aux pleureuses pour venir pleurer sa mort. Mais pour Jésus, la mort est juste comme le sommeil. Nous savons ce que c'est de réveiller quelqu'un qui dort. Ce n'est pas très difficile. Avec un ado, c'est parfois un peu difficile. Vous connaissez cela. Mais en gros, il est facile de réveiller quelqu'un qui meurt. Quelqu'un qui dort, pardon. Pas qui est mort. Mais pour Jésus, il est aussi facile de ressusciter un mort que pour nous de tirer quelqu'un de son sommeil. Aussi facile que cela. Nous ne pouvons rien faire pour faire revenir à la vie quelqu'un qui est mort. Il est littéralement trop tard. Mais pour Jésus, c'est juste comme tirer quelqu'un de son sommeil. Et c'est ce qu'il fait au verset 25. Il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva de la mort à la vie dans un instant. Quelle autorité époustouflante! Il n'y a vraiment personne d'autre dans toute l'histoire qui a une autorité pareille. C'est pour cela qu'il peut dire que la jeune fille dormait. Mais il est aussi possible qu'en disant qu'elle dormait, il pensait au fait que tous les morts vont vivre de nouveau un jour. Si vous avez votre Bible dans la main, si vous pouvez voir Daniel 12 avec moi. Daniel chapitre 12, c'est un verset qui parle des gens qui dorment. Daniel, dans l'Ancien Testament, nous avons vu ça dans l'Église il n'y a pas si longtemps que ça. Daniel chapitre 12 et le verset 2. Parce qu'ici, on parle des gens qui dorment et puis qui reviennent à la vie. Page 894 dans les Bibles sur les chaises. Daniel chapitre 12 et le verset 2. 12:2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, c'est-à-dire ils sont morts, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Selon ce verset, un jour les morts se réveilleront. Ici, on parle de plusieurs. Ailleurs, nous voyons qu'il s'agit de tous. Tous les morts se réveilleront un jour, comme nous nous réveillons de notre sommeil. Et Jésus nous en donne un avant-goût en ressuscitant la jeune fille. On peut revenir à Matthieu ensemble. Jésus a le pouvoir sur la mort. Il n'est donc pas surprenant qu'au verset 26, que le bruit se répand dans toute la contrée. Il y a quelqu'un qui peut faire revivre les morts. C'est du jamais vu. Et ne voulez-vous pas connaître celui qui peut vous faire revivre? Pas pour mourir une deuxième fois. C'est ça l'ironie de cette histoire. Un jour bien plus tard, la famille aura sans doute eu à faire de nouveaux appels aux pleureuses au moment du deuxième décès de la jeune fille. Mais si nous faisons confiance en Jésus, nous ressusciterons pour ne plus jamais mourir. Si on connaît Jésus, si on a placé sa confiance en lui, car par sa mort, il a vaincu la mort, le chrétien peut avoir un regard tout à fait différent par rapport à la mort. Quand nous nous retrouvons face au médecin, peut-être, qui nous annonce « Je suis désolé, mais les résultats ne sont pas bons », la perspective de la mort se dresse tout de suite devant nous. Et la mort reste une chose terriblement triste. La Bible ne le nie jamais. Mais pour le chrétien, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une vie en la présence de Jésus. Et en ce qui concerne d'autres chrétiens que nous connaissons, lorsque nous apprenons leur mort, même si on est extrêmement triste, on peut aussi se réjouir. Ils sont avec Christ, ils connaissent celui qui a le pouvoir sur la mort. Jésus a l'autorité sur la mort. Mais ce n'est pas la seule chose que nous apprenons dans ce passage. Nous voyons aussi qu'il a l'autorité sur la maladie et le mal. Au cours de notre existence, nous sommes tous à des degrés divers, confrontés par la maladie. C'est parfois frustrant d'être malade. C'est parfois très douloureux d'être malade. Et nous avons envie de vivre dans un monde où personne ne tomberait malade. Dans ce récit, Jésus montre qu'il est celui qui peut créer ce monde. Nous le voyons déjà au verset 20 au 22 avec la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Quelle situation terrible pour la femme. Sa maladie a duré 12 ans sans répit. C'était sans doute douloureux pour eux, mais aussi gênant. Et puis, selon la loi de l'Ancien Testament, elle était rituellement impure. Elle n'aurait pas dû se trouver parmi la foule. Elle n'aurait certainement pas dû toucher le vêtement de Jésus. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait. Elle est désespérée. Et elle pense que Jésus pourra la guérir. Et donc, au verset 20, elle touche le bord de son vêtement. Et au verset 22, Jésus se retourne et ses premiers mots à son égard sont des mots de réconfort, d'encouragement. La femme pensait sans doute que Jésus allait lui faire des reproches, mais il ne l'a pas fait. Il lui promet la guérison et elle est guérie. Jésus a l'autorité sur la maladie. Cette femme est malade depuis 12 ans, les médecins n'y peuvent rien, et Jésus la guérit en un instant. C'est la même chose pour les hommes aveugles, versets 27 à 31, ils le suivent en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Et une fois arrivés à l'endroit où Jésus logeait, Jésus leur demande s'ils croient qu'il peut les guérir. « Oui, lui répondent-ils. » Et verset 30, il leur ouvrait les yeux. Il s'agit d'un miracle remarquable, redonner la vue à quelqu'un qui n'a peut-être jamais vu de sa vie. Il rétablit les connexions dans le cerveau et dans l'œil, de sorte que les hommes puissent voir. Jésus a une autorité époustouflante sur la maladie. Maintenant, la question qui se pose, c'est alors Jésus a-t-il promis de nous guérir de toutes nos maladies maintenant? Mais la réponse est non. Il ne nous a pas fait cette promesse. Mais ce qu'il promet, c'est la guérison entière une fois que nous serons dans le royaume des cieux, dans la nouvelle création, après notre mort. Et c'est ce qu'il nous montre dans son ministère, un avant-goût de ce monde encore à venir. Dans la nouvelle création, il n'y aura plus de lunettes. On n'en aura plus besoin. Plus de médicaments à prendre, plus de rendez-vous chez le médecin, plus de médecin tout, plus de mauvaises nouvelles en ce qui concerne notre santé, plus de rhume, plus de grippe, plus de fièvre, plus de maladies d'Alzheimer ou de Parkinson. Quel monde glorieux! Quelle perspective incroyable, n'est-ce pas? N'avez-vous pas envie d'habiter dans un monde pareil? Mais peut-être vous dites-vous, mais c'est trop beau pour être vrai, ça, vous les chrétiens, vous n'êtes pas un peu fou là. C'est bien beau ce que vous racontez, mais est-ce qu'on peut parler de ça comme une réalité? Mais c'est Jésus qui nous montre que c'est bien une réalité. Il l'a démontré par les miracles qu'il a accomplis. Et il nous dit que le royaume des cieux sera un monde parfait. Il a l'autorité sur la maladie. Mais il a aussi l'autorité sur le mal. Au verset 32, vers la fin de notre passage, l'homme qu'on amène à Jésus souffre d'un problème médical. Il est muet. Mais le problème de fond, vous l'avez vu, c'est la possession par un démon. Car au verset 33, nous voyons une fois le démon est chassé, l'homme parle. De nouveau, le problème ici, c'est le mal. Et dans notre monde, le mal se trouve partout. On le voit dans les crimes commis contre des victimes innocentes. On le voit dans les régimes des dictateurs tels que la Corée du Nord, où des habitants sont traités comme des moins que rien. On le voit dans les cas d'abus d'enfants ou des personnes vulnérables. On le voit aussi dans le fait que notre société promeut l'avortement ou bien l'euthanasie, y compris celle des enfants en Belgique. C'est un mal profond. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte, mais il s'agit d'un mal. Et même lorsque les gens voient le mal dans le monde, ils sont impuissants contre lui, ne peuvent rien y faire. La société n'a pas de réponse face au mal. Mais le chrétien peut être à la fois attristé, dégoûté par le mal, et en même temps voir les racines de ce même mal dans son propre cœur. Et réaliser qu'un jour Jésus vaincra tout mal de ce monde. Et pourquoi ne le fait-il pas maintenant alors? On a envie de lui demander. Mais si Jésus éliminait tout le mal de ce monde maintenant, et toutes les causes du mal, qui d'entre nous subsisterait? Pas moi, certainement, et pas vous non plus. Jésus attend avant de mettre fin au mal dans ce monde, afin de donner l'occasion à des gens comme nous de croire en lui et de recevoir son pardon. Nous avons vu il y a 2 semaines, Jésus est venu pour des pécheurs. Et nous pouvons échapper au jugement final si nous plaçons notre confiance dans la mort de Jésus. C'est la merveille du message de la Bible. Jésus, l'innocent, souffre en mourant sur la croix pour des coupables comme nous. Il prend sur lui le châtiment que nous méritons et il nous donne la vie éternelle, une relation avec Dieu. Jésus est plus fort que la mort, plus fort que la maladie, plus fort que le mal. Et cela prouve qu'il est le Messie. Il est le Messie. Parfois, on parle dans ces termes dans le monde politique. Il pense qu'il est le Messie, ce gars-là. Il pense qu'il va sauver le monde à travers ses politiques. Ou on parle de footballeur. Est-ce que vous connaissez Lionel Messi? Peut-être le footballeur. Il est très fort, en l'occurrence. Et les gens pensent qu'il est le Messi. Ils l'adorent presque. Mais ce n'est pas le vrai Messi. Mais on comprend ce que ça veut dire. C'est celui qui va sauver, qui va vraiment faire une différence dans notre vie pour changer des choses. Mais c'est qui, finalement, qui va faire ça? C'est Jésus. C'est lui le seul Messie. Et le Messie, dans la Bible, veut dire celui que Dieu a désigné comme roi en loignant de l'huile. C'était la pratique à l'époque de l'Ancien Testament. Et Dieu avait donné une promesse à David, le roi David dans l'Ancien Testament, qu'un de ses descendants allait régner sur le trône éternellement, le Messie. Et ce Messie allait régler tous les problèmes de notre monde et créer un monde nouveau, le royaume de Dieu. Et nous voyons avec les hommes aveugles, qu'est-ce qu'ils crient à propos de Jésus, verset 27. Il dit, « Aie pitié de nous, fils de David. » Ils ont bien compris qui est Jésus, le Messie. Verset 33, nous voyons la foule à la fin. Qu'est-ce qu'ils disent? « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Le Messie est arrivé. » Et rappelons-nous au chapitre 11, Jean-Baptiste envoie des gens vers Jésus en lui demandant, « Es-tu bien le Messie ou est-ce qu'il faut attendre quelqu'un d'autre ?» Et comment est-ce que Jésus répond en versets 2 à 6? Il dit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est ce que nous voyons dans ce récit, n'est-ce pas? Jésus prouve qu'il est le Messie, celui qui a toute l'autorité de Dieu, qui va créer le monde nouveau dont nous rêvons tous. Avant de voir comment nous devrions réagir face à un tel roi, revenons à notre question du départ. Qu'est-ce qui distingue Jésus de tous les autres personnages religieux? Mais c'est facile. Jésus, c'est le seul qui a l'autorité de Dieu pour créer un nouveau monde, sans souffrance, sans mort, sans le mal. Il est dans une catégorie à part par rapport à tous les autres personnages religieux. Mais comment devrions-nous réagir, nous réagir face à lui? Premièrement, nous devons croire en lui. Nous devons croire en lui. Vous avez remarqué cela dans le récit? C'est la foi qui est mise en avant. La foi qui est mise en avant. Et partout dans l'évangile de Matthieu, les chapitres 8 à 9, nous avons vu cela. Le chef dont la fille est morte ne dit pas « Ah, c'est trop tard, Jésus ne peut rien faire. » Non, il dit « Viens, impose-lui les mains, elle revivra. » Il a la foi en Jésus. De même, verset 21, la femme dit ceci, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Et au verset 22, comment Jésus lui répond, « Ta foi t'a guéri. » C'est parce qu'elle a cru en Jésus qu'elle a été guérie. Et c'est la même chose avec les deux aveugles, au verset 28. Jésus leur demande, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et qu'est-ce qu'ils disent ?« Oui. » Et Jésus leur répond au verset 29, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. Puisque vous avez cru en moi, je vous guéris. » C'est la foi en Jésus qui est importante. Mais ce n'est pas la dimension grande ou petite de notre foi qui est importante. C'est l'objet de notre foi. Et ça, c'est très encourageant. La femme fait preuve d'une foi avec mélangée un peu de superstition presque. Elle veut juste toucher le bord du vêtement de Jésus. C'est presque la superstition, mais Jésus l'a guéri quand même, parce qu'elle a placé sa foi en lui. Et c'est encourageant pour nous cela, parce que parfois on se demande, est-ce que je peux être sauvé avec une foi telle que la mienne, tellement vacillante, tellement faible, parfois? Mais si nous avons placé notre confiance en Jésus, c'est ça qui compte, c'est lui, l'objet de notre foi, qui compte. C'est un peu comme ceci, imaginons qu'on a un pont, qui traverse, qui relie une rivière. Et deux personnes veulent atteindre l'autre rive en empruntant le pont. L'un est très confiant que le pont va le tenir sans problème. L'autre doute. Il a du mal à croire que le pont va le tenir, ne s'écroulera pas en dessous de lui. Mais est-ce que la dimension de la foi de l'un ou de l'autre joue un rôle dans la traversée du pont? Non, pas du tout. C'est l'objet de leur foi, c'est le pont lui-même. S'ils empruntent le pont, ils vont tous les deux arriver sains et saufs de l'autre côté. Et c'est la même chose dans la foi chrétienne. Si nous plaçons notre confiance en Jésus, qu'il peut nous pardonner, nous donner la vie éternelle, il le fera. Il n'y a pas de doute. Même si notre foi est bien petite parfois, c'est Jésus qui compte, c'est l'objet de notre foi. Et on se dit, mais Jésus, pardonne-moi. Je te fais confiance. Mais parfois, on se dit, mais moi, je ne vais seulement croire à ce que je vois. Peut-être que vous avez entendu des personnes qui disaient, peut-être que vous pensez cela, je peux seulement croire à ce que je vois. Mais qu'en est-il de ces hommes aveugles? Qu'est-ce qu'ils avaient vu de leurs yeux que Jésus avait accompli jusqu'à là? Rien. Rien. Tout était rapporté par des témoins oculaires. Mais cela ne les a pas empêchés de croire en Jésus. Et pour nous de même, nous avons les écrits des témoins oculaires dans la parole de Dieu. Ils sont fiables. Et nous pouvons croire en Jésus sur cette base-là. Êtes-vous prêt à croire en Jésus? C'est la première chose que nous devons faire. La deuxième chose, c'est un peu le revers de la médaille, ne pas le rejeter. Ne pas le rejeter. La foi n'est pas la seule réponse que nous voyons dans ce chapitre. Il y a aussi la moquerie, verset 24, lorsque les gens « Crois pas que Jésus puisse ressusciter la fille, la moquerie. » Mais au verset 34, nous voyons le rejet de la part des pharisiens. Ils pensent que c'est par le prince des démons qu'ils chassent des démons. Ils pensent que Jésus est lui-même un démon, et c'est comme ça qu'il peut chasser d'autres démons. Ils rejettent Jésus, ils refusent de croire en lui. Et beaucoup de gens rejettent Jésus de nos jours, même de façon très poli et sophistiqué, en venant même dans un bâtiment d'église. Mais on garde Jésus à distance. On dit non, ce n'est pas pour moi. Et on le rejette parfois, pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais rappelons-nous, si Jésus est celui qui va faire revivre les morts, et en Daniel 12, les morts se ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Nous allons tous revivre un jour après la mort. Mais les uns seront sauvés si nous avons placé notre confiance en Jésus. Les autres sont rejetés loin de Dieu. Ne rejetez pas Jésus. Les conséquences sont terribles et éternelles. Et la troisième chose que nous voyons dans ce passage, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons parler de ce Messie. Nous devons parler de ce Messie. Mais c'est un peu frappant que Jésus dit au verset 30, il interdit aux hommes aveugles de dire quoi que ce soit le concernant. Mais les hommes, ils désobéissent. De toute façon, c'était un peu difficile, je pense, de cacher le fait qu'ils voyaient maintenant. Mais pourquoi est-ce que Jésus leur a interdit cela? Mais c'est sans doute à cause du message qu'ils auraient partagé. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Mais venez voir cet homme qui peut faire tout ce que l'on veut. Il nous a même redonné la vue. Et qu'est-ce que les gens auraient cru? Que Jésus n'est rien d'autre qu'un faiseur de miracles, et pas plus. Ou peut-être ils auraient dit, voici le Messie est là, le fils de David, il est arrivé. Mais qu'est-ce que les gens auraient compris? Peut-être que c'était un roi comme les autres, qui allait chasser les Romains avec force et puissance. Mais ils n'avaient pas compris que le Messie, Jésus, c'est un Messie qui va souffrir pour les autres. Il va mourir à la place des autres pour leur pardonner. Jésus a interdit à ces personnes de parler de lui parce qu'ils ne connaissaient pas encore le bon message. Mais si nous connaissons le message du pardon des péchés par la croix de Jésus, nous désobéissons à Jésus si nous ne parlons pas de lui. Parce qu'à la fin de cet évangile, qu'est-ce que Jésus dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons parler de Jésus. Ça va presque de soi. Si c'est le Messie, si c'est le seul espoir pour l'humanité, si c'est le seul qui a l'autorité sur la mort, la maladie, le mal, ne voulons-nous pas partager cette bonne nouvelle avec ceux que nous connaissons, ceux que nous côtoyons au travail, au stage cette semaine et chez nous, avec fierté, sachant que Jésus est le seul espoir pour ce monde perdu. Parlons de Jésus. Mais j'espère que nous voyons que Jésus est tout à fait unique parmi tous les personnages religieux, dans une catégorie à part. Il n'y a personne d'autre comme lui. Il a l'autorité sur la mort, sur la maladie, sur le mal. C'est le Messie qui va créer un monde nouveau. Et comment nous devons réagir? Nous devons croire en lui, pas le rejeter et parler de lui. Mais prions que Dieu nous aide à faire cela. Prions ensemble. Notre Père, te louons pour le Seigneur Jésus. Merci pour son autorité époustouflante sur la mort, sur la maladie, sur le mal. Merci parce qu'il est le Messie, le roi que tu as envoyé pour créer un monde nouveau. Et nous savons que ce monde est encore à venir et nous te prions que nous puissions croire en Jésus dès maintenant pour recevoir le pardon de nos péchés et pour avoir une place dans ce monde merveilleux à venir. Et que nous puissions parler de lui avec fierté, avec courage, avec zèle, avec amour, sachant qu'il est le seul espoir pour notre monde perdu. Et nous t'en prions en son nom. Amen.